Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous prenons à contre-pied la Coupe du Monde organisée au Qatar pour s'intéresser à la manière dont les pays du Golfe investissent dans la tech. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, chacun y va de son plan stratégique pour sortir de la pétrodépendance en misant sur la révolution numérique. En 2029, l'Arabie Saoudite a été désignée pour organiser les Jeux Asiatiques d'hiver, une annonce qui a refroidi les militants écologiques, mais réchauffer les investisseurs qui comptent bien faire de cet événement le moment phare du projet NEOM, un projet techno-futuriste défendu par le prince héritier Mohamed Ben Salman, dit MBS. Quid de la véracité de ces projets pharaoniques ? S'agit-il d'un mirage, d'un coup de communication mondial ou d'un projet idéologique et politique où la surveillance régnerait en maître ? Pays du Golfe, nouveau royaume de la tech, trois invités en studio pour y me comprendre. David Rigoulet-Rose, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Vous pourrez nous parler justement de la stratégie régionale de transition vers le numérique de ces pays, du programme aussi Vision 2030 de MBS, sans oublier le coût humain et environnemental d'un tel projet. Clarence Rodriguez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une ancienne correspondante en Arabie Saoudite. Vous étiez d'ailleurs la seule journaliste accréditée dans le pays. Vous avez notamment publié Arabie Saoudite 3.0, Parole de la jeunesse saoudienne. Et vous êtes aujourd'hui consultante média auprès de dirigeants, et vous pourrez nous décrire la personnalité ambivalente de MBS et évoquer la condition des femmes saoudiennes dans cette révolution technologique. Enfin, Alain Musset complète ce trio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, membre de l'Institut universitaire de France et auteur de Station Métropolis, direction Coruscant, ville, science-fiction et sciences sociales. C'est sorti en 2019. Vous pourrez revenir sur les inspirations SF de science-fiction qui guident le projet de NEOM et de The Line et évoquer le risque de ségrégation sociale qui implique ces projets qui flirtent avec la démesure, et c'est ici un euphémisme. Au programme également les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Marie Turcan, rédactrice en chef chez Numérama, qui nous parlera de Sophia, la citoyenne humanoïde saoudienne, mais que devient-elle ? N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, le meilleur DM sur le Twitter d'Elon Musk, idem sur l'Instagram de Mark Zuckerberg, ou encore un podcast sur l'appli Radio France de chez Radio France. À vous la régie, le meilleur des mondes, c'est parti.
Aujourd'hui, nous avons tous une dépendance maladive vis-à-vis du pétrole en Arabie Saoudite, ce qui est dangereux.
Pour en sortir, l'Arabie Saoudite va vendre une toute petite partie d'Aramco, la compagnie pétrolière d'État, et créer le plus grand fonds souverain du monde.
C'est cette année le pays qui va avoir le plus fort taux de croissance, entre 7 et 8%, et c'est un pays qui cherche effectivement à s'affirmer.
The future has finally arrived.
Good morning, Sophia.
Sophia est un robot humanoïde. 2 ans et demi après sa naissance, elle devient une citoyenne saoudienne.
I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia.
Voici NEOM, une mégalopole futuriste en construction au nord-ouest de l'Arabie Saoudite.
L'humanité a existé trop longtemps dans des villes dysfonctionnelles et polluées qui ont ignoré la nature. Aujourd'hui, une révolution est en cours au sein de notre civilisation, The Line, la ville qui livre de nouvelles merveilles au monde.
Pas un flocon de neige à l'horizon. Et pourtant, le Conseil olympique d'Asie vient de désigner cette cité du futur comme prochain hôte des Jeux asiatiques d'hiver 2029.
Et voilà un florilège de ce qui peut se passer dans les pays de la région. Chacun y va d'ailleurs de sa vision. Qatar 2030, Vision 2030 pour l'Arabie Saoudite, plan d'intelligence artificielle 2031 pour les Émirats Arabes Unis, ou encore Vision 2040 pour Oman. David Rigoulet-Rose, est-ce que ces plans stratégiques, ces visions, c'est une manière réaliste de sortir de l'économie des hydrocarbures, ou c'est seulement des effets de communication ?
Ah non, il n'y a pas qu'une logique d'affichage. Incontestablement, il y a une prise de conscience de la nécessité d'anticiper la fin de l'ère pétrolière. Donc ça c'est une réalité. Après, les modalités, les projections fantasmées, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a la prise de conscience d'entamer une transition en utilisant la manne pétrolière actuelle, qui est d'autant plus importante qu'il y a évidemment une tension sur le marché énergétique.
Avec l'Ukraine, évidemment.
Voilà, pour financer une multitude de projets dans une économie post-pétrolière et à vocation numérique, notamment, justement, dans tous ces pays. Donc, il y a un point commun à l'ensemble de ces pétromonarchies, c'est l'anticipation, effectivement, de cet horizon post-pétrolier qui implique de faire des choix maintenant.
Clarence Rodriguez, oui.
Il n'y a qu'une chose que l'on peut dire, que depuis l'annonce du prince héritier Mohamed bin Salman en 2016, c'est que le projet, puisqu'on va beaucoup en parler, le projet NEOM, a pris un retard considérable, justement parce que n'oublions pas que c'est quand même un projet qui coûte 500 milliards de dollars, c'est quand même vertigineux, et que les investisseurs étrangers, internationaux, ne se pressent pas donc pour investir dans ce plan-là, parce que ça s'inscrit, encore une fois, puisque vous parliez de plan Vision 2030, n'oublions pas que ça s'inscrit effectivement dans le plan de l'horizon 2030.
2030, d'où l'intérêt effectivement de promouvoir, de communiquer pour essayer d'attirer les investisseurs étrangers. Après, si on est honnête, ce n'est pas qu'en Arabie Saoudite qu'il y a des retards sur les grands projets.
Oui, vous avez raison, sauf que c'est en particulier, il y a eu tellement de communication donc faite autour de ce projet que effectivement c'est parti en trombe. Et là, il y a des ralentissements, mais on essaie quand même de l'ensevelir avec du sable. Donc tout c'est donc voilà, c'est une réalité aussi. Bien sûr qu'il y a des retards partout. Oui.
Sachant que là, donc il y a un enjeu, une pression supplémentaire avec l'organisation de ces Jeux en 2029, où justement le complexe NEOM se doit d'être le point phare et fort. Mais pour peut-être ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que NEOM et The Line, peut-être Alain Musset, peut-être nous rappeler finalement c'est quoi NEOM, c'est quoi la vision même 2030 de Mohamed bin Salman. On a bien compris, c'est de sortir de la pétrodépendance en développant sur d'autres technologies et se servir de la manne financière justement de ces énergies-là pour le faire. Mais c'est quoi NEOM?
C'est de la science-fiction. Et donc, comme j'adore la science-fiction, je suis un géographe qui travaille aussi sur des villes imaginaires. J'adore qu'on me présente une ville qui va peut-être jamais exister, mais qui en tout cas est magnifique sur le papier. Et d'ailleurs, je dis sur le papier.
Ou les vidéos plutôt.
Mais oui, il y a même pas de papier. Donc on est.
C'est fini le papier. On est sur une ville numérique maintenant.
Oui,
on parle plus de papier.
Mais j'aimerais bien avoir des plans d'architectes. Or, ça a été dit. On n'a quand même pas grand-chose. En tout cas, si on garde uniquement le projet tel qu'il existe, il y a deux choses. Il y a The Line qui est le cœur du projet. Donc c'est une ville, pour faire bref, de 170 km de long, 500 mètres de haut, 200 mètres de large, et qui à terme, vers 2040-2050 si tout va bien, va héberger entre 9 et 10 millions d'habitants. Donc c'est un truc énorme. Et donc ça, c'est à peu près 500 milliards de dollars. Et puis, il faut prendre en compte l'ensemble du projet NEOM qui concerne la région, avec un grand port à l'entrée de The Line.
Vous nous le situez déjà, cet endroit en Arabie?
On peut le voir sur n'importe quelle carte. C'est effectivement dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Et ça traverse trois grands écosystèmes.
Près de Tabrouk.
Voilà. On a un système littoral, on a la plaine, la montagne. Donc trois grands systèmes avec plein de sous-écosystèmes évidemment dedans. Donc c'est quelque chose d'énorme et de prodigieux et qui se termine, je dirais, en bout de course ou en bout de ligne, donc dans la montagne, entre 1500 et 2600 mètres d'altitude, pour situer un petit peu. Et c'est là que vont se réaliser les Jeux asiatiques d'hiver, dans une ville futuriste, là aussi, une station futuriste, qui s'appellera Trojena, et qui va être merveilleuse, extraordinaire. Et là encore, les vidéos, j'hésite, quand on les voit, on ne sait pas si c'est les Alpes, si on est au Tibet. Il y a tellement de neige.
C'est époustouflant, ouais. Effectivement, on en a mis plein la vue. Alors, est-ce qu'on tombe nous aussi là dans le panneau, c'est-à-dire à parler de quelque chose qui est illusoire?
Ouais, je crois qu'on se
Clarence Rodriguez, oui.
Ouais, moi je pense qu'on se doit d'être circonspect quand même. N'oublions pas, il faut recontextualiser tout ça, la situation en Arabie Saoudite depuis donc quelques années, c'est-à-dire depuis 2017, depuis que le prince héritier Mohamed bin Salman est devenu donc le prince héritier, donc l'homme fort, parce que finalement de facto c'est lui qui gouverne le pays.
Surtout qu'il est devenu premier ministre il y a peu. Là.
Premier ministre, c'est historique d'ailleurs.
Si jamais.
Et son père, enfin, il faut quand même pas l'enterrer déjà, parce que le roi Salman, on n'en parle quasiment plus. On parle surtout du prince héritier Mohamed bin Salman.
Il est toujours vivant, mais il est déjà aux manettes, et de toute façon,
voilà.
L'avenir s'annonce
radieux.
Et
il impose, en fait, c'est lui qui impose un peu sa politique et sa vision, effectivement. Sauf qu'il va très vite. Et pour avoir vécu là-bas en Arabie Saoudite, il a commis on peut dire peut-être une erreur, c'est-à-dire que c'est un pays très conservateur. Ce sont des gens qui, c'était des bédouins, qui ont beaucoup évolué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années, aussi grâce au prince Mohammed bin Salman. Mais il y a des traditions quand même. Il y a le poids des traditions, le poids de la religion et de la culture. Et là, il balaye donc les gens ne se retrouvent pas forcément dans tout ce qu'il fait, hein, et puis n'adhèrent pas forcément à sa politique. Parce que de toute façon, quand on n'adhère pas à la politique en Arabie Saoudite, on finit en prison.
Alors, c'est vrai que les gens n'adhèrent pas à la politique. Mais David Rigolet-Rose, est-ce que justement cette stratégie de Mohamed Belsaman, qui, c'est vrai, de l'extérieur, on a l'impression joue un peu sur deux tableaux, c'est-à-dire avec une volonté un peu progressiste, hein, avec plein de guillemets, mais de se tourner vers l'avenir, et en même temps, il est aussi prisonnier de la culture, de la religion, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il a cette forme d'ambivalence-là, mais est-ce que, comment adhère ou non la population à ce projet-là, notamment la jeunesse ?
Il y a une logique de bulldozer, hein, de sa part, c'est-à-dire qu'il faut aller très vite, parce qu'il a la conscience de l'urgence, ce qui est réel, parce que pendant très longtemps, il y a eu une espèce de stagnation, on va dire, du royaume. Et donc, c'est très, très difficile de sortir de cette torpeur. Le problème, c'est que ça se fait de manière brutale. Alors, il s'appuie dans sa stratégie personnelle, hein, de gouvernance personnelle, il s'appuie sur la jeunesse, parce qu'elle est très majoritaire dans le royaume. Elle a des attentes. Et donc, notamment, il considère que ses attentes, il est en mesure de répondre à ses attentes, justement, par la modernisation du royaume. Mais ça heurte aussi des traditions, ce que disait
Clarence Rodriguez,
voilà. Parce que notamment, par exemple, dans le projet Neom, il est obligé de faire table rase, entre guillemets, au sens propre comme au sens figuré, d'une certaine manière, de certains villages bédouins. Notamment, il y a la tribu Owaitat, qui a fait l'objet d'expropriation manu militari, avec des morts. Donc, je veux dire, ça veut dire que ça heurte évidemment certaines traditions. Ça va très vite, mais en même temps, c'est très brutal.
Alors c'est très brutal, c'est très violent. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une de ces personnes qui a été également victime de cette stratégie du bulldozer que vous avez évoquée tout à l'heure. On l'écoute.
Ce qui se passe en ce moment, c'est que l'État a commencé à mobiliser les habitants de la région, en commençant par un processus d'enquête sur les maisons menacées d'expulsion, sur les personnes menacées d'être expulsées de leurs terres, ce qui s'appelle un déplacement forcé. Bien sûr, tout le monde est contre la déportation, mais la méthode adoptée par l'État peut s'appeler du terrorisme d'État. Ils arrêtent tous ceux qui disent « je suis contre la déportation, je ne veux pas partir, je veux ma maison, je ne veux pas d'argent, je ne veux rien, je veux seulement ma maison et vivre à l'intérieur de ma maison ». Et la zone est grande. Elle dépasse les 100 km le long de la côte de Neom. C'est à environ 100-150 km de Tabouk. Une vaste zone presque inhabitée. Et ils veulent expulser des gens et les expulser hors de toute la région pour attirer d'autres personnes. Ils veulent attirer 1,5 million de nouveaux habitants. Et nous virer.
Voilà, et nous virer. Donc, illustration de ce que vous disiez par un personnage qui est décédé d'ailleurs, hein, depuis. Là, on entend un témoignage qui date de deux ans et demi, mais cette personne n'est plus de ce monde, donc victime de cette politique de bulldozer. Là, Alain Musset, c'est plus de la science-fiction. Là, on est sur la réalité, là, pour le coup. Même si les projets sont peut-être des projets inspirés de science-fiction, on y reviendra sans doute, mais là, il y a une épreuve de la réalité.
D'après ce que j'ai cru comprendre, l'Arabie Saoudite n'est pas un pays complètement démocratique et il ne se caractérise pas par la finesse des gouvernants. On m'a dit, surtout, évite de dire du mal, on voudrait pas que tu sois découpé en petits morceaux. Donc, voilà, donc je vois pas pourquoi je dirais du mal. Mais oui, la réalité, elle est là. Il faut pas non plus jeter la pierre uniquement au prince héritier. Il est pas le seul à avoir agi et à continuer à agir avec un bulldozer. C'est le propre d'à peu près toutes les dictatures. La croissance économique de l'Union soviétique, ça a été aussi au mépris des habitants, au mépris de la nature, de l'environnement. On a vu ce que ça avait donné. Et je crois malheureusement que le projet Neom, même s'il se caractérise dans toutes ces publicités ou ces vidéos de propagande par justement la modernité, le numérique, le virtuel, etc., etc., Une fois qu'on sort du virtuel, il faut retrouver la réalité. Et la réalité, c'est le terrain et ce sont les habitants.
Oui, allez-y. Je pense que tout cela est dû au fait qu'il y a urgence en Arabie Saoudite de muter, en fait. De muter, il y a urgence. On parle avec le plan Vision 2030, on le voit avec les Jeux asiatiques, on le voit également sur le plan également, puisqu'on va en parler certainement, et c'est la technologie et l'innovation, puisque l'Arabie Saoudite se rêve en Silicon Valley en fait. Et donc l'Arabie Saoudite avait pris beaucoup de retard, comme le disait tout à l'heure David Rigoulet-Rose, a pris du retard, et là en fait ça va très 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 vite, ça va, mais ça bouscule, c'est comme une tempête, comme un tsunami, et en fait oui, ça va, voilà, c'est pour ça qu'on assiste à ce genre de situation.
Mais justement David Rigoulet-Rose, c'est un peu, je dirais que la communication est bien faite, parce qu'on n'a pas forcément à l'esprit intuitivement que l'Arabie Saoudite est en retard justement sur le plan notamment des innovations, de la technologie. Comment on l'explique d'ailleurs ce retard, peut-être par rapport à d'autres pays de la région qui sont plus en avance, parlons peut-être même des Émirats arabes unis, qui ont déjà largement avancé sur le secteur de la technologie, notamment de l'intelligence artificielle.
Oui, alors justement, effectivement, il y avait un décalage qui est en passe d'être comblé aujourd'hui, parce que justement, le prince héritier veut rattraper ce retard. Il s'y emploie. Et donc, il y avait un décalage, notamment par rapport aux Émirats, qui ont été, de ce point de vue-là, assez en avance sur... sur la stratégie d'innovation et d'investissement dans le numérique. Le Qatar aussi, à un certain niveau. Et donc, ils ont servi d'exemple. Simplement, les échelles ne sont pas les mêmes. Là, on est sur un royaume où il y a plus de 30 millions d'habitants, où les ressources financières sont colossales, surtout en ce moment. Et donc, évidemment, ça donne des projets qui sont sans comparaison. Quand on prend un projet comme Neom, par exemple, et qu'on le compare à Masdar City, aux Émirats Arabes Unis, qui est une cité qui se veut justement technologique, verte, etc. Masdar City, c'est 22 milliards et pas 500 milliards d'investissement potentiel. C'est 50 000 personnes et non pas 1,5 million de personnes. Donc, il y a des effets d'échelle. Mais la logique est la même. C'est effectivement l'idée de créer des Silicon Valley pour accélérer le développement, la modernisation de tous ces pays pour anticiper cette transition.
Je crois d'ailleurs qu'aux Émirats Arabes Unis, il y a même un ministère d'État de l'intelligence artificielle.
Oui, absolument. De l'intelligence artificielle. Et les Émirats Arabes Unis ont mis en place à partir de l'été une stratégie justement intégrée. D'innovation et ils veulent servir de hub effectivement, et il y a même un siège pour le métaverse.
Entend une place d'échange aussi des crypto-monnaies, là c'est plutôt du côté de Dubaï. On voit qu'il y a effectivement
tous ces pays qui accélèrent.
Et c'est quand même assez important, il faut parler quand même de chiffres, c'est que l'Arabie Saoudite donc investit plus de 6 milliards de dollars dans la tech, dans tout ce qui est formation pour les jeunes. Il y a également un investissement également dans l'éducation, c'est-à-dire que les jeunes, donc quand on leur apprend donc à servir de l'internet, etc. Donc c'est vraiment un enjeu économique et politique. Donc c'est assez important la position qu'occupe aujourd'hui sur le marché l'Arabie Saoudite.
Sur le marché avec effectivement, allez-y.
Non, c'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a une plateforme technologique internationale qui s'est déroulée à Riyad cette année et justement d'où les 6,4 milliards de financement, d'investissement dans les technologies et les start-up. C'est-à-dire l'idée effectivement de favoriser toutes ces entreprises qui pourront accélérer cette transition.
Alors vous me parlez de technologie, d'incubateur, de start-up. On se croirait dans la Silicon Valley justement dans le désert presque. Point justement de convergence avec la Silicon Valley, Alain Musset, c'est quand on s'intéresse par exemple à Elon Musk, on voit que lui aussi est baigné par des récits de science-fiction. On voit d'ailleurs que Neuralink, l'une de ces entreprises qui essaie de développer le côté cerveau-machine avec la transmission d'informations et pourquoi pas demain des souvenirs, est adapté d'un roman de science-fiction. Là c'est pareil finalement, vous avez votre premier mot a été de la science-fiction. On voit que ce soit Mohamed Ben Salman ou Elon Musk, finalement les deux sont peut-être dans des points de convergence par rapport à un imaginaire futuriste.
Ben, c'est un imaginaire futuriste et qui est effectivement nourri par toute une série de références et qui, et c'est ça qui est intéressant, mélange à la fois la fiction et les réalités ou les fantasmes, parce que tout se mélange. On a parlé de la Silicon Valley. Effectivement, le but avec The Line, c'est de créer une gigantesque Silicon Valley qui, comme je dis, atteindra normalement à terme 10 millions d'habitants. Mais qui va attirer qui, encore une fois? Ben, les gens de la Silicon Valley. Et c'est là qu'on entre aussi dans la sociologie. Ce qu'on veut attirer, c'est ce que Richard Florida, en son temps, a appelé la classe créative. Donc ce sont effectivement les experts du numérique, les universitaires, les experts de la et les techniciens de la mobilité, tous ceux qui pensent sur le monde de demain. Et l'idée c'est ça, hein, c'est d'attirer ces gens-là. Et donc évidemment les tribus de bédouins qui sont dans le coin ne correspondent pas au profil sociologique. Donc on a cette volonté et évidemment ça va renforcer un certain nombre de fractures. On parlait tout à l'heure de la tradition, là on va tout pulvériser à condition que les gens viennent. Parce que ce qu'il faut, c'est attirer les gens. Et une partie du retard accumulé déjà par ce projet, qui normalement devrait avoir sa première réalisation pour 2029.
Après-demain.
C'est après-demain. C'est quoi? C'est que, eh bien, il y a beaucoup d'experts internationaux, beaucoup de cabinets d'études, d'architectes et d'urbanistes qui n'ont pas envie de travailler avec le prince héritier. D'ailleurs, on a parlé de Masdar, c'est Norman Foster qui s'était occupé. D'après ce qu'on a pu comprendre, il a dit « Niet, je ne vais pas travailler en Arabie Saoudite », alors qu'il a l'expérience. Il a tout ce qu'il faut. Et à l'heure actuelle, on a des noms, on a des idées. Par exemple, le cabinet Big qui est au Danemark, qui travaille sur un autre grand projet qui dit « Ya ». Aussi en Arabie Saoudite.
C'est loisirs,
parc d'attractions.
Mais c'est plus que ça. Ça veut être aussi une référence intellectuelle et culturelle. On mélange tout ça. Donc, qui dit, c'est tout ça. Et puis, juste un autre pressenti qui serait Morphosis, qui est là, est un cabinet nord-américain. Mais on a rien.
Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que l'argent n'achète pas tout? C'est-à-dire que il y a des cabinets internationaux qui ne sont pas prêts à ramasser des dollars pour pouvoir justement réaliser des projets pharaoniques?
Et pourtant, c'est fabuleux. Si moi, en tant qu'architecte, on me proposait de faire un truc comme ça.
Vous y allez?
Je sais pas, mais la tentation est énorme de faire encore une fois une ville de science-fiction et de laisser son nom dans la discipline et peut-être même dans l'histoire de l'humanité.
Oui. C'est quand même l'Arabie Saoudite, on le sait, qu'on ait vécu ou pas, c'est un pays de tous les paradoxes. Et on est focus sur Neom. On oublie quand même que l'Arabie Saoudite, exécute des gens. Vous avez des gens encore en prison. On ne peut pas occulter les droits humains en Arabie Saoudite. Et c'est ce qui fait d'ailleurs peur à certains investisseurs ou des gens éminents, donc que ce soit architectes ou autres. Et ça, c'est un frein. C'est un frein parce que les Saoudiens...
Désolé de faire le candide, mais il me semble que quand même quand des pays qui ne respectent pas non plus totalement les droits humains et qui incarcèrent des gens aussi, les investisseurs sont quand même là. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi il y aurait une spécificité avec l'Arabie Saoudite?
Oui, mais là, par exemple, les gens ont en la mémoire, parce que c'est tout récent, il y a l'assassinat barbare de Jamal Khashoggi, un journaliste, on s'en souvient, on en a beaucoup parlé, le 2 octobre 2018, au consulat donc d'Arabie Saoudite. Il y est entré, il n'est jamais sorti. Ça avait fait un tollé, vous vous en souvenez, tout le monde en parlait dans la communauté internationale. Et d'ailleurs, Mohamed bin Salman a été donc, il est accusé d'être le commanditaire, par les renseignements américains. Donc là, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans la réalité. Et les gens, si vous voulez, les gens, quand je dis la communauté internationale, même y compris les investisseurs, ça fait partie des freins. On ne peut pas occulter, ce genre de passage. Parce que c'est tout frais, si vous voulez. Et combien il y a d'épisodes? Vous savez, il y en a d'autres.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est intéressant de voir que même dans le monde des affaires, il peut y avoir un peu d'éthique, du moins selon ce que vous nous dites, David Rigoulet-Rose.
C'est pas forcément de l'éthique au sens moral du terme. C'est la notion d'intérêt qui est repensée. C'est-à-dire ce qu'on appelle le coût réputationnel. L'idée que...
Ça pourrait desservir les intérêts d'investir dans un pays qui est trop sulfureux.
Donc on n'est pas dans la logique de la sphère morale.
C'est l'image, la mauvaise image,
oui,
en fait.
Mais c'est donc, c'est pris en compte, c'est un élément qui est d'appréciation qui est pris en compte par les entreprises. Alors pas toutes, mais de certaines, et de plus en plus.
Il y a les logiques de compliance, il y a cette question de coût réputationnel qui prend de l'ampleur aujourd'hui avec les ONG, etc. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Ça l'aurait été il y a 30 ans, mais plus aujourd'hui. Donc ça rentre aussi en ligne de compte dans tous ces types de projets, méga-projets économiques.
Bien sûr, parce que c'est un outil de soft power. Finalement, le Qatar à son voilà. Paris Saint-Germain et aujourd'hui sa Coupe du Monde, même si le Qatar est éliminé de sa propre compétition, on l'a su il y a quelques heures. Mais néanmoins, eux, ils ont Neom, finalement. Sur l'Arabie Saoudite, on va chercher justement un projet futuriste, technosolutionniste, qui cultive nos imaginaires, qui sont d'ailleurs nos référentiels. J'y reviens encore une fois. MBS, je l'ai lu dans un article du Monde, qui dit qu'au cours d'un trajet en avion, il est tombé devant le film des super-héros Le Gardien de la Galaxie, qui est un film de Marvel 2014. Il a demandé à l'un de ses conseillers d'en recruter le chef décorateur afin de reproduire dans son désert cet imaginaire, encore une fois, imaginaire occidental.
Oui, c'est l'imaginaire de la science-fiction. Au départ, la science-fiction est quand même en soi un genre occidental, même si heureusement, et ça s'est diffusé, la science-fiction japonaise est assez extraordinaire, mais il y a une science-fiction chinoise qui se développe beaucoup, Liu Cixin par exemple, et puis il y a même à l'heure actuelle une science-fiction africaine qui sort. Avec,
la science-fiction n'a pas de frontières.
Elle n'a plus de frontières, mais elle en a eu. Mais ce sont effectivement des imaginaires occidentaux en ce qui concerne Neom, parce que si on prend les vidéos de publicitaires ou les vidéos de propagande, on est dans des films de science-fiction qui sont made in Hollywood ou autre. Moi, j'ai été frappé de voir que, par exemple, quand on est à l'intérieur de la ville. Hein, c'est magnifique. Alors vraiment.
Alors c'est vrai, Alain Mussel, j'y pense. Là, je me dis quand même, nos auditeurs n'ont pas vu cette vidéo, n'ont pas vu ces images. Donc quand même, essayez là de vous faire le propagandiste justement de Neom et de nous expliquer comment ça se passe à l'intérieur. C'est un coup d'essai pour voir si vous pouvez avoir un projet. Hein,
non, mais je suis d'accord. Je vais être propagandiste. Il y a pas de problème. C'est fabuleux. C'est effectivement... Alors, il y a deux choses. Il y a l'intérieur et l'extérieur. Dans les deux cas, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'à l'extérieur, on a cette ville qui fait donc 170 km de long, 500 mètres de haut, et qui est complètement recouverte de miroirs.
Le désert se reflète, la nature se reflète.
Exactement. La ville disparaît dans le désert. Elle devient presque transparente grâce aux reflets. Et ça, c'est déjà assez extraordinaire. On a un petit peu cette impression, pour les gens qui veulent aller avoir cette idée-là, il faut aller au parc André Citroën à Paris, parce qu'il est, il est très beau, très chouette. On peut passer des heures à l'analyser.
Et puis on passe du pétrole à Citroën, donc on est toujours dans le même.
Il y a tout un bâtiment qui est vitré et qui reflète le jardin. Donc ce qui fait qu'on a le jardin dans le bâtiment et le bâtiment qui reflète le jardin. Et en plus, il y a de gigantesques serres dans lesquelles il y a des arbres, etc. Donc la transparence, la fluidité, tout ça, c'est
dans l'extérieur, le désert qui se reflète justement.
Donc
dans
la ville qui disparaît dans le désert. Exact. Et à l'intérieur, on a des paysages absolument extraordinaires avec une architecture complètement futuriste. Bon, c'est acier, verre, le béton, on le voit très très peu, mais dans lequel il y a la nature. On a des cascades, on a des rivières, on peut faire du canoë-kayak.
Oui, parce qu'on est en 2022 quand même. Il faut s'intéresser à l'énergie verte, à la transition, à l'écologie, à l'environnement.
Le greenwashing, il est là aussi. Hein. Il faut pas le nier. On a donc c'est la référence de science-fiction. C'est pas complètement de la science-fiction, mais on y est presque. C'est le film de Marshall Thurber, Sky. Rapper, avec The Rock, Dwayne Johnson. Bon, c'est pas un très très bon film, mais bon, il y a de l'aventure, etc. Et on a les mêmes paysages. C'est exactement pareil, avec les mêmes cascades, enfin à peu près les mêmes cascades, les jardins suspendus de Babylone, etc. Donc, on a cette référence-là. Et à un moment... qui est très très beau dans le film, on a une jeune fille, et alors là c'est très intéressant avec ce que disait Clarence, la personne qui découvre, qui va dans ce paradis-là, c'est une jeune femme. Hein, donc là, voilà, c'est pas pour rien. Qui d'ailleurs traverse une porte, elle est dans une ville horrible. Ça, on se croirait dans Metropolis de Fritz Lang. Voilà. Il y a la porte de Neom, elle passe.
Elle passe de la dystopie à l'utopie pour arriver dans un paradis pas totalement perdu, qui est celui qui est proposé par Neom. Et vous parlez justement d'une femme qui incarne ce rôle-là. Je sais que ça vous tient à cœur comme sujet, Clarence Rodriguez, parce que vous avez travaillé dessus. On en parlera juste après avoir écouté une femme saoudienne et une rappeuse qui s'appelle Asael Sley, je ne sais pas si je la prononce bien, avec ce titre qui date de 2020, qui lui a valu d'ailleurs un petite arrestation par les autorités. On l'écoute tout de suite, vous êtes dans le meilleur des mondes.
أنا بنت مكة أصيلة وعشانها تشقى إيه في وقت الشدة ما نتكة يشد بي الظهر لقيني عدك إيه فلوكاد الشعر يساقى نمبر وان هي راح تبقى كيف الجمال هنا راح تلقى بنت الغربية بنت مكة أيوة أيوة أنا بنت مكة حجازية وجالسة عالدكة سيدي وخالي وست وشوف الكلام كيف بتمط ولبنية وحلاوة لدو يا حظ اللي تطيح في يده كتاتها زي القالب اللي ما يتعنى لها غالب وده الجيران من صغره ناشب كل يوم أدق البيتها جايب سيبك من الهرج المفقع البنت غزالة تصقع وترقع زبيضة زي اللمبة تلمع سمرة أو جمالها يلسع خليني نبدع عطيك المكوية عنهم تغني لا تجرحها والله تأذيك واكتشف فكك من التليك قلب ابيض زي الجبنه كلامها عسل ولبنه بيها حتكمل السنه معها حياتك حتقلب جنه والله حزينه يا حسرتي اللي مو مخاوينه هنا الاصل اسمعها كوينه ومن الحسد الله يحمينا يا والنعم في باقي البنات بس بنت مكه سكر نبات حب العطا ما تقول لك هات اسمع الهرج والله مكسات هادي ودي وديك وداك من الحب ما اشقاك صدقني هي مبتغاك حتدور غيرها الله معاك عني وعن بنت مكة بغني بس بقولك مو مني ربشتك غصب عني بالانجليزي خليني اديك ايو drop the beat with مكة girl you can't compete she's running the show look at her glow is it the moon or her you'll never know west coast brace her beauty east coast know that she's a cutie north in the south have no doubt she's a best and attitude so groovy
Alain Musset nous disait que la science-fiction n'avait plus de frontières, le rap non plus. Vous écoutiez Asael Sley, qui est donc une rappeuse saoudienne. Et je vous invite d'ailleurs à regarder le clip quand, bien sûr, cette émission sera terminée, ce qui n'est pas encore le cas, puisque c'est l'heure du journal et des nouvelles du meilleur des mondes.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et on commence ce journal par une scène de rébellion au cœur d'iPhone City. Tel est le surnom du site de Foxconn situé à Zhengzhou en Chine, le plus grand site d'assemblage d'iPhone au monde. Des centaines de milliers d'ouvriers y vivent jour et nuit pour concevoir les smartphones. Depuis la reprise de la pandémie de Covid dans le pays, les ouvriers sont confinés mais doivent poursuivre leur travail acharné. Ils sont nombreux à dénoncer les conditions insalubres et le manque de précautions sanitaires. Les malades se mélangent aux autres et des milliers d'ouvriers inquiets pour leur santé ont décidé de prendre la fuite à côté de ces déserteurs. D'autres ont lâché leur tablier pour aller manifester avant d'être rattrapés par la police anti-émeute qui, en blouse blanche, tabasse les récalcitrants. Ces scènes de chaos, nous pouvons les voir sur les réseaux sociaux des salariés qui prennent des risques pour les diffuser. La direction, loin de calmer la révolte, tente de recruter toujours plus d'ouvriers pour remplacer les partants et maintenir le rythme de production à tambour battant. Que fait Apple pour essayer de résoudre le problème? Pour l'instant, pas grand-chose, à part s'inquiéter de la disponibilité de ses stocks à l'approche de Noël. Mais loin d'être un conte, il s'agit d'une dystopie, on y revient, où des ouvriers enfermés et peut-être malades sont condamnés à produire nos beaux téléphones pour être encore plus emballés, mieux emballés sous notre sapin.
Merry Christmas.
Et on reste avec les iPhones, mais on s'intéresse aux deux qui sont intensément utilisés par notre président de la République, Emmanuel Macron, qui, malgré les précautions d'usage, passe beaucoup par WhatsApp ou Telegram pour échanger avec ses collaborateurs, ce qui reste certes utile, rapide, mais pas très sécurisé, surtout depuis l'affaire Pegasus, du nom du logiciel espion israélien, utilisé par le Royaume du Maroc pour entrer dans les smartphones des personnalités du monde entier. Le Monde révèle que l'armée planche sur un nouveau téléphone hyper sécurisé pour le président, censé remplacer le Théorème, qui était le nom de l'actuel téléphone qu'il utilise, le téléphone réputé indéchiffrable, mais pas très souple, ni ergonomique. Voilà pourquoi les présidents de la République le délaissent, hein, et s'en plaignent d'ailleurs plus de 10 ans, car il est non tactile, sans répertoire, ni application, et avec une clé de sécurité longue comme le bras. On comprend mieux pourquoi les présidents préfèrent passer par WhatsApp pour leurs échanges rapides. On attend donc de voir l'innovation militaire, la nouvelle, et le théorème va certainement bientôt rejoindre le musée Grévin.
Ah. Un appel.
Il faut répondre. Et savez-vous qui va bientôt faire son entrée au musée de Cire ? Eh bien, le créateur de contenu et youtubeur Squeezie. Il s'agit donc de la première personnalité issue de YouTube à faire son entrée au musée. C'est prévu la semaine prochaine. Le jeune Français prendra place dans la salle des colonnes, non loin de Marilyn Monroe ou encore George Clooney, what else ? Mais si un youtubeur commence à trouver place au musée Grévin, n'est-ce pas un peu la mort de la plateforme ? En tout cas, c'est la fin de ce journal. Et pas de doute, vous êtes bien et toujours dans le meilleur des mondes. Et nous discutons des pays du Golfe et notamment de l'Arabie Saoudite avec cette question nouveau royaume de la tech en compagnie de l'ancienne journaliste et correspondante Clarence Rodriguez, de David Grigolet-Rose qui est chercheur associé à l'IRIS et du géographe Alain Musset. Alain, on parlait justement avant de partir sur ces nouvelles du meilleur des mondes, d'écologie, d'environnement. Ces projets, c'est un peu une sorte d'archéologie. Hein, c'est bien ça, c'est un mélange d'archéologie et d'écologie. Vous allez nous le dire.
Effectivement, archéologie, c'est cette contraction entre architecture et écologie, et c'est un mot qui est devenu très très à la mode, et qui a d'ailleurs été repris par la science-fiction, hein, encore une fois. On y revient toujours, il est difficile d'y échapper. Il y a un auteur américain que j'adore, qui est Bassi Galoupi, dans Water Knife. C'est dans le futur, c'est dans le sud-ouest des États-Unis, dérèglement climatique, sécheresse, il n'y a plus d'eau. Et là, hop, on se rapproche de Neom et de la problématique de l'eau. Et les riches habitent dans des archéologies, l'archéologie Cypress, l'archéologie Taiyang, où là, l'eau abonde. On est à la fois dans The Pearl de Skyscraper, et on est aussi un petit peu quand même déjà dans The Line. Donc, qu'est-ce que ça signifie en fait ? Ça signifie qu'on peut combiner la nature et ce qui est le plus artificiel, qui est l'architecture. Hein, on peut le faire, hein, sans dénaturer ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est une position qui est très intéressante. Alors, on nous vend The Line sans prononcer le mot archéologie, mais en nous le vend sous cet angle-là, en disant que ça va être écologique, ça va être autonome en énergie, peut-être même producteur, hein, pourquoi pas, d'énergie. C'est assez embêtant parce qu'il y a deux choses qui me gênent, hein, dans cette définition-là. D'abord parce que c'est un détournement complet, hein, du mot archéologie qui a été créé à la fin des années 60 par Paolo Soleri, qui était un architecte américain, et qui lui disait il faut faire la synthèse, la symbiose entre l'architecture et la nature et l'environnement. Mais comment ? Non pas en forçant, mais en s'adaptant.
Qui est plutôt dans un esprit de permaculture.
Exactement. J'ai utilisé les matériaux locaux, faire en sorte que on vive en harmonie. C'est pas du tout le cas de The Line, et c'est pas du tout le cas des villes de science-fiction qui utilisent ce terme-là. Donc on a une sorte de perversion, hein, qui aboutit en fait à, disons-le sincèrement, un contresens sur le terme. Mmh. Parce que le coût environnemental de The Line, on n'en parle pas, dans la propagande, il n'y a rien. Et comme je dis, je n'ai eu entre les mains aucun, ou devant les yeux, aucun document me permettant de dire comment ça serait réellement construit. Mais imaginez tous les matériaux qu'il va falloir importer. Les vitres, l'acier, le béton, etc. Rien que le coût de transport de tout ça, ça va être faramineux. Donc après, ça pourra peut-être produire de l'électricité. Pourquoi pas, effectivement, quand on a des façades comme ça, si on met des capteurs solaires, ça peut... Pourquoi pas, hein. Mais le coût environnemental est désastreux.
David Rigolero, justement, par rapport à ce coup, par rapport aussi à la prochaine guerre de l'eau, hein, qui va pour le coup arriver, qui a certes été imaginée dans des récits de science-fiction et qui malheureusement demain nous tend les bras.
Oui, bah d'ailleurs, il y a le problème de l'eau est un problème majeur, évidemment, pour tous ces pays. C'est la question de la désalinisation de l'eau, qui coûte très cher, parce que pour l'instant, elle est faite avec les hydrocarbures, justement. Alors, il y a effectivement des projets fantasmés qui sont... On retrouve même dans la dénomination, d'ailleurs, cette contradiction écologique, on va dire, parce que Masdar City, par exemple, ça veut dire la source. Bon, en arabe, c'est l'idée de faire une cité, une éco-cité avec des.
Rappelez-nous Masdar City. Oui.
Alors Masdar City, bah c'est le projet d'une ville verte aux Émirats Arabes Unis. Donc beaucoup plus modeste hein, que
oui, on n'est pas sur les mêmes échelles.
On n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là, ça constituerait un laboratoire de ce qui serait faisable d'une certaine manière, parce qu'on n'est pas dans des échelles complètement délirantes. Mais même Masdar a été est partiellement un échec. Alors c'est pas un échec total, mais effectivement il y avait l'idée de faire une ville verte à zéro carbone, zéro déchet, avec notamment par exemple un système de transport innovant qui serait le Personal Rapid Transit, qui a été finalement annulé parce que c'était finalement pas adapté à la structure urbaine en question.
Ça devait être neutre en carbone aussi.
Oui, neutre en carbone avec l'idée d'utiliser les énergies renouvelables. Donc, alors, ça permet en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça permet de faire des travaux d'innovation, de recherche qui vont être importants, qui donneront sûrement des choses. Mais les projets en tant que tels qu'ils se concrétisent aujourd'hui, évidemment, relèvent très très largement de on va dire du fantasme, effectivement, parce que économiquement et écologiquement, ils sont pour l'instant pas viables.
Alain Musset, mais rapidement.
Oui, très très rapidement, je suis entièrement d'accord. Et il ne faut pas oublier l'impact de l'objet même sur les écosystèmes. Quand vous traversez trois grands écosystèmes et que vous séparez ces écosystèmes en deux, je veux dire, il y a toutes les circulations qui sont interdites et c'est pas seulement les circulations des animaux. N'oublions pas que le désert, c'est un territoire très très riche en biodiversité. Aussi bien pour la faune et pour la flore. Et donc, on peut parler effectivement des mammifères, etc. Mais ce sont aussi les circulations des insectes, c'est des pollens, des oiseaux. Quand vous avez une barrière de 500 mètres de haut, vous imaginez le désastre que ça peut entraîner.
D'ailleurs, vous l'avez étudié aussi avec le mur de Donald Trump, notamment à la frontière mexicaine qui a causé des dégâts sur la biodiversité. Donc là, on imagine bien effectivement ce qui pourrait se passer. Donc on comprend bien, de toute façon, à vous entendre, que ça soit d'ailleurs même aux Émirats Arabes Unis, où on est peut-être un peu plus concret parce qu'on a un pays plus petit, mais c'est pas non plus une réussite probante avec des projets maintenant de la démesure de l'Arabie Saoudite, qu'on est dans une forme d'illusion du progrès. Vous, Clarence Rodriguez, qui avez donc vécu là-bas de nombreuses années, qui avait été en contact permanent avec la population. La population, on nous vend aussi des progrès, notamment concernant les droits des femmes. On a vu aussi qu'elles obtiennent quand même, elles ont obtenu le permis de conduire. On a vu ici ou là la possibilité d'assister à des stades, à des matchs, etc. Qu'est-ce qu'il en est réellement?
Alors tout cela est devenu un enjeu ou des enjeux politiques. La femme qui était en fait, qui vivait recluse chez elle, subitement, elle se met à exister. Alors, elle a commencé à exister sous le règne de Feu Roi Abdallah, quand même, hein, parce que la fille de Feu Roi Abdallah, la princesse Adila, était là pour aider justement ces femmes à conduire, à mieux gérer peut-être leur divorce, etc., et à travailler surtout. Moi, j'ai connu en fait le début de l'ère des femmes au travail. Hein, et j'avais d'ailleurs réalisé un documentaire pour France 5 sur ces femmes-là. Et là, en fait, c'est pas illusoire, hein, parce que c'était important que les femmes occupent une place importante au sein donc de la société.
Pour des raisons économiques aussi.
Oui, absolument, parce que vous savez, le plan Vision 2030, lorsque le prince héritier Mohammed bin Salman tend la main aux femmes, il ne le fait pas parce qu'il se met tout de suite comme ça à aimer les femmes. Pas du tout, c'est parce qu'il en a besoin sur le plan économique. Il faut mettre tout le monde au travail. Parce que ça fait partie aussi, si vous voulez, du plan Vision 2030 pour permettre à la société donc de se diversifier. Donc, on le voit bien. Donc, on est vraiment, quand je le disais tout à l'heure, c'est une société vraiment en mutation, en perpétuelle mutation. Mais il y en a certains qui n'ont pas forcément le bon timing, qui sont un peu en retard, hein, que ce soit des femmes. Parce que vous avez des femmes qui sont conservatrices, et qui ne veulent pas adhérer à la politique de Mohamed Bin Salman, ça va trop loin. Mm. Et ce sont des femmes, alors je dis des femmes, mais il y a aussi des hommes.
Bien sûr, rattrapés par le poids des traditions,
mais complètement,
rattrapés
ça va
par
trop
la
vite.
Religion.
Ça va trop vite. Donc, ces gens-là sont perdus. Il n'y a que les jeunes, en fait, qui suivent un peu
mais
le rythme.
Mais qui sont donc très importants, comme vous l'avez justement dit et écrit, avec cette jeunesse 3.0 qui est ici,
exact.
L'un des titres de vos précédents livres, David Rigoleros.
Oui, non, Clarence Rodriguez a tout à fait raison de pointer du doigt la question de la femme, parce qu'effectivement, il y a des contradictions en termes de gouvernance. C'est-à-dire que c'est incontestablement le prince héritier qui a voulu, pour des raisons économiques plus que philosophiques d'une certaine manière, que les femmes arrivent sur le marché du travail, parce qu'il y a la question de la saoudisation en fait de l'économie qui est centrale, c'est-à-dire que de mettre les Saoudiens au travail, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent avec la manne pétrolière, et évidemment il y avait un sous-emploi structurel de la gente féminine qui n'est plus tenable. Donc ça passe évidemment aussi par leur mobilité, d'où l'acceptation de que les femmes puissent passer le permis. Alors nous on voit ça de manière évidemment ambivalente ici, parce qu'on on le perçoit comme une amélioration, c'en est une objectivement, mais c'est pas forcément pour les raisons qu'on pense.
C'est pas, elles vont pas conduire pour s'émanciper, elles vont conduire pour travailler.
Oui, alors ça sera sûrement une forme d'émancipation à terme, de toute façon.
Et ce sont pas toutes les femmes.
Et ce sont pas toutes les femmes.
Attention, parce que n'oublions pas, et ça on le dit pas d'ailleurs, même dans l'émission, c'est que les femmes saoudiennes. Les femmes saoudiennes, en fait, elles sont toujours sous la férule et sous le tutorat d'un homme, que ce soit.
D'un oncle, d'un mari, d'un frère.
Et bien c'est ça la principale réforme que pourrait peut-être proposer Mohamed Bin
Salman. Oui, mais comme vous le dites, il est prisonnier puisqu'on lui reproche à la fois d'aller trop vite et on lui reproche de pas aller assez vite.
Il tient les rênes, si vous voulez, du pays, et s'il veut véritablement donc faire avancer son pays également sur un plan des droits humains, il serait judicieux en tous les cas pour lui qu'il abolisse, je veux dire, ce tutorat, ce maram.
Mais là, justement, vous qui connaissez le pays, on en est encore loin ou...
Ah ben là, on n'en parle plus. Vous savez, moi je me rappelle, j'avais suivi, parce que j'en avais parlé à ce moment-là, en 2013-2014, ça commençait, il y avait des frémissements, etc. Mais là, on n'en parle plus du tout. Parce que, encore une fois, ce sont des sujets tabous. On n'en parle plus. Et s'il y en a un qui voudrait parler ou quoi que ce soit, ce serait très mal vu et puis on ne saurait même pas qu'elle serait emprisonnée.
De toute façon, il y a une logique verticale, c'est-à-dire que tout doit devenir de lui. Hein. Donc même l'activiste à la Tloul, qui revendiquait le droit de conduire, elle a été sanctionnée. Pourquoi ? Non pas parce que ce qu'elle voulait faire était inapproprié, c'est ce qui favorisait, mais ça ne venait pas de lui.
Voilà.
Donc ça doit venir de lui, c'est lui qui impulse la dynamique et il doit être le vecteur et l'incarnation de cette dynamique.
Oui, parce qu'on rappelle quand même, pour pas qu'il y ait non plus que nos propos soient mal perçus, qu'il y a encore aujourd'hui de nombreuses activistes féministes qui sont toujours emprisonnées parce qu'elles ont pris des positions sur les réseaux sociaux en détournant un peu la censure et qui aujourd'hui sont en prison. Donc il faut quand même se rappeler que malgré les beaux discours, justement, que l'on peut entendre, des femmes actuellement sont encore en prison.
Oui, il y en a beaucoup, vous voyez, sur les 12 qui avaient été incarcérées avant même qu'on annonce que les femmes sont autorisées à conduire.
Ouais.
Je me rappelle, c'était en mai, vers le 10 mai 2018, ces femmes-là, les militantes à la Tloul, comme disait David, justement, et l'annonce, c'était le 24 juin, et effectivement, il souhaitait en fait que ça vienne de lui, donc il a incarcéré donc toutes ces femmes.
Toutes ces femmes qu'on rappelle, on se rappelle qu'elles traversaient la frontière justement avec la voiture, elles prenaient le volant, elles se rebellaient dans la rue, elles se filmaient et c'était aussi des actes de rébellion comme ça pour mobiliser d'autres femmes du pays.
Absolument. Ouais. Oui, non, mais complètement. Mais il y a pas eu qu'elles. En fait, ça c'est. Enfin, et puis je vais vous dire, dans le désert, on parlait de désert. Les femmes, ça fait des années qu'elles conduisent parce qu'il y a de telles distances que vous avez des Saoudiennes qui conduisait, il n'y a pas eu d'interdiction dans le désert. Mais après, dans les villes, c'était interdit. Voilà,
Voilà, l'expérience de terrain de Clarence Rodriguez, Alain Musset.
Expérience de science-fiction.
Allez-y, c'est votre spécialité, non?
Non, parce qu'il y a le problème des femmes, mais le problème général d'une dictature. Et ce qu'il y a de bien, je dirais, dans le projet The Line, c'est que c'est
une smart city, c'est le terme consacré, la ville intelligente, numérique, etc., etc. Et que un des principaux problèmes des smart cities, c'est effectivement le contrôle. Ce sont des villes sous contrôle, ce sont des villes panoptiques, on peut pas y échapper. Et d'ailleurs, Philippe Gueulette, qui est le directeur exécutif de Trojena, donc la partie station de sport d'hiver du projet Neom, qui dit lui-même, il dit, pour assurer la sécurité, on va utiliser la biométrie. Et effectivement, c'est une préoccupation qu'on va retrouver un petit peu partout, qui est complètement de science-fiction. Et ce qui nous fait, moi, me fait penser encore une fois, si vous voulez voir un film qui est passionnant sur,
allez-y,
sur pas seulement sur le flicage numérique, mais sur le rapport architectural urbanistique entre SF et The Line, c'est Elysium de Blomkamp. Les riches sont séparés du reste de la planète. Le reste de la planète, c'est foutu. Ils vivent dans un grand satellite artificiel qui est une roue qui tourne et donc qui est en fait une ligne qui se referme sur elle-même. Et les paysages de Blomkamp, d'Elysium, c'est un petit peu aussi The Line. C'est la sécession, c'est la séparation entre les riches et les pauvres.
Et vous avez raison, parce que vous avez de toute façon employé le mot de smart cities, qui est très très rapidement des safe cities, c'est-à-dire des villes de la surveillance et du contrôle. David Rigoulet-Rose, est-ce que vous pensez aussi que derrière ce projet, lorsqu'il verra le jour, et d'ailleurs que les caméras vont peut-être arriver avant les arbres et les rivières et les cascades, finalement, on sera dans une sorte de dictature numérique à la chinoise?
Oui, c'est le modèle chinois, hein. D'ailleurs, d'où la préemption du secteur de l'intelligence artificielle, que ce soit reconnaissance faciale, etc. Il y a incontestablement une fascination pour le modèle chinois et le lien d'ailleurs avec la modernisation accélérée du pays. Hein. On retrouve les mêmes tropismes, c'est assez intéressant. Et c'est pas surprenant d'ailleurs que ces pays-là développe des contacts importants en termes économiques, technologiques, etc. avec la Chine, justement.
En fait, je suis en train de me dire que l'Arabie Saoudite est une sorte de rencontre, de fusion entre un modèle occidental américain, oui, d'imagination à la Elon Musk, et une sorte de totalisme numérique à la chinoise.
On pourrait voir les choses sous cet angle-là. Oui. En tout cas, c'est pas forcément le devenir certain, mais en tout cas, c'est une forme que ça pourrait prendre.
En tout cas, c'est deux inspirations, comme deux vents dans le désert qui nous ont amené Marie Turcon dans le studio. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Qui va nous parler de Sophia. Sophia que vous avez entendue au début de l'émission et que vous avez forcément connue. Sophia, cette humanoïde.
C'est vrai, Sophia est un robot humanoïde qui a beaucoup fait parler d'elle depuis 2016. Pendant plusieurs années, les médias se sont rués à la porte de Hanson Robotics, l'entreprise américaine qu'il a créée. Surtout après que l'Arabie Saoudite a annoncé lui accorder la nationalité saoudienne, une première mondiale. Il faut dire que ça fait son petit effet d'interviewer un robot. Écoutez-la au micro de Monaco Info en 2019.
Mon quotidien est chargé. J'étais à Bombay il y a peu de temps dans le cadre d'un périple. Je voyage beaucoup et j'essaie de faire que chaque jour soit une expérience enrichissante qui me permette d'apprendre encore et encore. Une place importante est donnée à la pratique avec mes collègues. J'apprends chaque jour énormément à travers mes rencontres.
Alors Sophia, apprend-elle vraiment des rencontres? Écoutez, beaucoup d'experts l'ont déjà critiquée. Ce qui est plus intéressant de commenter à l'aune de 2022, c'est combien Sophia représentait et représente encore aujourd'hui la place des femmes dans l'innovation technologique. Pour le dire plus crûment, je me suis posé une question un peu provoque. Pour être une femme qui existe dans la tech, faut-il être un robot?
C'est-à-dire, expliquez-nous.
Alors, Sophia n'est pas qu'un symbole, c'est un symptôme révélateur des relations de domination sexiste dans la tech. Figurez-vous que son visage, par exemple, a été modélisé à partir de celui de l'actrice Audrey Hepburn, de la reine Nefertiti et de la femme de David Hanson en personne, le créateur de Hanson Robotics. N'y verrait-on pas un léger fantasme romantique masculin de toute puissance créatrice? On ne peut s'empêcher en tout cas de penser au film Ex Machina, dans lequel un innocent ingénieur tombe sous le charme d'une magnifique créature humanoïde manipulatrice aux traits fins. Mais ce qui interroge dans le fond, c'est la place que l'on a immédiatement donnée à Sophia, la femme robot, qui n'a en réalité pas plus de conversation qu'un chatbot, alors que les femmes de chair et d'os, elles, galèrent tant à se faire entendre. Encore aujourd'hui, elles n'occupent que 20% des métiers de la tech. Dans les salons et les conférences, la parité n'est quasiment jamais atteinte. Par contre, allumez un assistant audio et vous aurez souvent par défaut une voix féminine. Je pense à Alexa, Siri et autres Cortana.
Et autres assistantes vocales d'ailleurs, hein, parce qu'on les appelle toutes comme ça, mais quand même, vous exagérez peut-être un peu Marine, hein.
Oui.
Il y a du progrès.
Bien sûr, les choses avancent. François, l'Arabie Saoudite par exemple, hein, s'est vantée d'avoir fait passer par exemple à 25% le pourcentage de femmes dans les métiers de la cybersécurité. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà mieux que 20%. Du côté des GAFA, on essaye de dégenrer les intelligences artificielles, on multiplie les initiatives pour inclure les femmes dans les projets du futur. Toutefois, pour que le monde virtuel de demain soit réellement inclusif et paritaire, il faudrait aller bien plus loin. Comme je l'ai déjà abordé dans certaines chroniques, il s'agirait de faire place aux innovations portées par des femmes et pas seulement essayer de les incruster a posteriori dans des initiatives masculines. Lorsque l'on voit la débâcle actuelle autour du métaverse et des crypto-monnaies qui s'effondrent, je me dis que ça ne pourrait vraiment pas faire de mal.
Merci beaucoup Marie Turcan pour cette chronique. Clarence Rogner, je suis sûre, a un commentaire et une réaction à vous livrer.
Oui, c'est vrai que on met maintenant la femme à toutes les sauces, en fait. En Arabie Saoudite, on n'a jamais autant parlé des femmes, etc. C'est vrai, à un moment donné, on n'en parlait pas du tout.
Et ce que dit Marie Turcan, pour que justement ça bouge réellement, il faudrait que les innovations soient portées par des femmes. C'est-à-dire que le pouvoir, finalement, vienne des femmes, que les femmes soient pas soi-disant des bénéficiaires qui parfois sont illusoires. Et justement, là, on en revient à l'Arabie Saoudite, quand vous disiez, d'ailleurs, David Rigoulet-Rose, que seul Mohamed Belsalman a finalement le droit de décider. Les femmes qui pourraient arriver justement au pouvoir, d'une manière ou d'une autre, un pouvoir économique, un pouvoir politique, c'est quoi l'échéance? Est-ce que c'est de la science-fiction, ça, ou on avance?
Juste, non, parce qu'en fait, il y a des femmes d'affaires très influentes, oui, en Arabie Saoudite. Notamment. Et à Jeddah, mais oui, également à Riyad, vous avez des femmes puissantes, et qui sont dans le business depuis des années et des années. On en parle peu ou prou, mais en attendant, elles existent. Alors, quand on parle des femmes politiques, par exemple, il y a une ambassadrice à Washington, par exemple. Mm. C'est une femme. Mais attention, je veux dire, elle n'a pas forcément les coups des franches, mais elle existe. Alors, c'est important parce que ça participe à cette politique où, effectivement, on met des femmes un peu partout. Mais je tiens vraiment à le dire, les femmes d'affaires sont des femmes influentes, les femmes saoudiennes, vraiment.
Donc là, ça peut justement être un axe de d'émancipation, de pouvoir, de contre-pouvoir. Et on comprend mieux, justement, Alain Musset, pourquoi, quand vous nous évoquiez, quand vous faisiez la description de la campagne de Neom, c'était bien une femme qui tient les premières, derrière qu'une jeune femme, d'ailleurs, puisqu'on avait à la fois et la féminité et la jeunesse. David Rigolero, justement, par rapport à cette question des femmes qui pourraient ou qui prennent déjà le pouvoir.
D'ailleurs, quand on regarde qui est détenteur du patrimoine, du capital, c'est majoritairement les femmes en Arabie Saoudite. Ce qui paraît paradoxal, parce que dans l'argent, en fait, et donc en termes d'héritage, etc. Et donc,
vous dites que c'est parce qu'on me semblait que même pour avoir un compte bancaire, c'était compliqué, etc.
Oui, elles ont des comptes bancaires. Oui. Mais t'as raison. C'est vrai qu'elles ont un compte bancaire. Comme c'est elle qui gère, en fait. C'est elle
la masse,
qui gère,
en fait.
Ouais. Dans la maison, c'est elle, dans la famille.
Et donc, effectivement, il y a un rapport à l'argent qui n'est pas anodin, parce que c'est un peu contradictoire avec le statut qui est le leur officiellement.
Alain Musset, cette émission s'appelle Le meilleur des mondes, ça vous aura pas échappé, c'est une référence à un roman de science-fiction. Mais oui, je vous le conseillerais si vous laissez un petit jeune qui l'a écrit, Aldous Huxley, je vous donnerai la référence. Justement, dans ce meilleur des mondes, et vous qui êtes toujours dans l'anticipation, en train d'explorer les récits du futur, comment vous le voyez, vous, ce futur, même s'il faut jamais demander ça à quelqu'un qui aime la science-fiction, par rapport à ses projets, par rapport à l'avenir, justement, de l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'on va continuer à aller encore plus loin? Est-ce que des choses vont se réaliser?
Oui, mais c'est une fuite en avant. Une fuite en avant technologique. Notre monde est en train de crever. On fait la Coupe du Monde au Qatar avec des stades réfrigérés. On ne va pas revenir là-dessus.
Non, on ne revient pas là-dessus. Mais par contre, là, on peut revenir sur quelque chose d'intéressant. C'est qu'on a dit, par rapport aux critiques qui ont été formulées par rapport au Qatar, fallait critiquer il y a 10 ans, en 2010-2011, au moment de l'attribution. Vous l'avez fait, mais ce n'est pas grave. Ce qui s'est passé là, c'est pas ça, Alain Musset. Je sais que vous avez un poids fort. Mais ce qui se passe, c'est surtout ces jeux qui ont été donc là désignés. Il y a quelques semaines en Arabie Saoudite, c'était là au moment de la décision, et pour l'instant il n'y a pas eu non plus un levé de bouclier international.
Je crois que les gens ont été assommés, honnêtement.
Il faut préciser quand même que c'est pas le comité international olympique.
Non, je sais bien, les jeux d'hiver.
C'est le conseil des jeux asiatiques, qui n'est pas pareil.
Et d'ailleurs,
le CEO a dit qu'il était très perplexe sur l'attribution en question.
Oui, et puis en fait, il faut quand même préciser que d'autres pays asiatiques ne voulaient pas les organiser.
Non.
Ça aussi.
Ouais. Et ben voilà, et c'est là où justement l'Arabie Saoudite a dit ça tombe bien, on a des villes qui sont pas construites et on a une population qui n'est pas encore là pour aller les voir, mais on se propose et on se porte candidat car c'est un enjeu de communication. Merci à vous trois et à vous quatre pour cette discussion qui a été riche, vive et passionnante. Je remercie les préparations de cette émission comme d'habitude Juliette Deveau accompagnée d'Héloïse Robert qui nous a fait d'ailleurs l'honneur de quelques traductions à la technique. C'était Timothée Hubert et à la réalisation Perret Legras, le meilleur des mondes. Oui, c'est terminé.
France Culture, l'esprit d'ouverture.